les experts sur France Bleu Cotentin. Toutes vos questions jardin avec Christophe Guérand.
Eh oui, Christophe Christophe Guérand, pardon, je bafouille, ça commence très très bien, Christophe.
Il n'y a pas de problème.
Notre expert jardinier est avec nous. Christophe, quels conseils on peut donner à nos jardiniers en ce moment?
Bah écoutez, avec la pluie, on va y revenir avec la question de Martine, un courrier qu'on a reçu cette semaine. Il faut être prudent, c'est par rapport à certaines maladies. Alors notamment quand on a une petite serre, culture de tomates, hein, dans la région, c'est, si on veut réussir à avoir quelque chose, généralement c'est sous serre pour des tomates. Et quand on a un petit moment d'humidité, comme on risque d'avoir cet après-midi, c'est développement de certaines maladies, de certains champignons. Et ça peut aller très vite quelquefois parce que la chaleur revient à la suite. Et à ce moment-là, les champignons trouvent vraiment le terrain idéal pour se développer. Alors notamment le mildiou, hein, qui atteint très souvent les tomates. Donc il faut être vigilant de ce côté-là. Dès les premières attaques, on coupe l'extrémité des feuilles éventuellement. Et puis quand l'attaque est plus importante, là on passe à une lutte un petit peu plus efficace avec du cuivre.
Avec du cuir éventuellement, voilà. Et c'est efficace?
Oui, quand on s'y prend relativement rapidement, c'est relativement efficace, oui, tout à fait.
Une question qui concerne votre potager, vos légumes, vos arbres fruitiers. Un seul numéro de téléphone, celui de France Bleu Cotentin, 02 33 23 13 23.
Pour poser votre question jardin à Christophe Guérand, appelez France Bleu Cotentin au 02 33 23 13 23.
Nous accueillons Edouard. Bonjour Edouard.
Oui, bonjour.
Bonjour Edouard.
Vous nous appelez de Perrier, Edouard. Quelle est votre question?
Oui, je voudrais savoir comment détruire la prêle.
Ah Edouard, c'est une bonne question, c'est une question qui nous revient de temps en temps.
Alors déjà, qu'est-ce que c'est la prêle?
Qu'est-ce que c'est la prêle? Alors c'est une plante, c'est pas une plante à fleurs, hein, ça ne fait pas partie des phanérogames. C'est une plante qui va pousser dans les terrains très humides, ce qu'on appelle le parricide, la queue de renard, hein, ça fait une espèce de grande pousse verte, assez rêche au toucher. D'ailleurs, c'était utilisé autrefois en ébénisterie, une fois sec, pour poncer finement les vernis, cette prêle. Malheureusement, ses racines poussent à une profondeur absolument jusque 3-4 mètres de profondeur, ce qui explique que c'est quasiment impossible de s'en débarrasser. Même avec ce qui était disponible autrefois des traitements chimiques, on n'arrivait quasiment pas à s'en débarrasser. Changer la nature du sol, puisque avec une structure de sol un petit peu plus aérée, ça pousse dans les terres argileuses, en mettant du calcium, on va pas réussir à restructurer toute la profondeur de cette terre-là. Et malheureusement, très honnêtement, j'ai jamais trouvé de solution. Ça arrive à pas repasser quelquefois, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais même au travers de l'enrobé des routes.
Ça peut même pousser l'enrobé.
Ça arrive à traverser l'enrobé, hein. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant. La seule solution, c'est de l'enlever régulièrement. J'ai pas trouvé moi d'autres solutions. Et puis de l'utiliser, hein, si vous avez un potager, c'est un excellent fortifiant.
Hein. Elle n'a pas que des inconvénients.
Cette plante, puisque elle contient beaucoup de silice, beaucoup d'oligo-éléments, et vous allez pouvoir l'utiliser. Ça va être la compensation, hein, de cette présence de cette prêle. Et la compensation, c'est que vous pouvez l'utiliser. Alors un kilo à peu près de feuilles fraîches pour 10 litres d'eau, vous laissez à macérer quelques jours, et vous utilisez ça comme engrais, comme fortifiant pour les plantes. Si vous avez des tomates, on en parlait tout à l'heure, ça renforce les plantes au niveau de leur résistance par rapport aux maladies. C'est une des utilisations possibles. Je vous parlais de l'utilisation des ébénisteries tout à l'heure, c'est autre chose. Mais j'ai pas de remède miracle pour se séparer de la prêle.
Edouard, ça répond à votre question?
Oui, mais ça donne pas de solution.
Ah non, malheureusement, j'ai pas de solution. Alors, faut se rassurer que quand même, dans les temps préhistoriques, certaines prêles mesuraient jusque 15 mètres de haut. Donc,
si elles font 15 mètres chez vous, Edouard, là, faut vraiment faire quelque chose. Faut y aller à la tronçonneuse.
On a plusieurs espèces de prêles actuellement dans la région. Certaines vont jusque 1 mètre de haut quand même. Hein, mais malheureusement, j'ai pas de solution.
Faut juste la détruire régulièrement.
La faucher régulièrement de façon à la fatiguer un peu, mais vous n'arriverez pas à l'éliminer complètement.
Voilà Edouard, désolé.
Merci.
Passez une bonne journée Edouard, à bientôt. Vous aussi, n'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant votre potager à Christophe Guérand, notre expert jardinier. Il est là pour vous jusqu'à 10h moins le quart.
De Granville à Barfleur, de Cherbourg à Avranches, à Saint-Lô à Carentan à Coutances, France Bleu, c'est la radio qui parle de la Manche.
Calogero sur France Bleu Cotentin. France
Bleu. Du 28 au 30 juin, les Arzimutés ont rendez-vous sur la plage verte de Cherbourg en Cotentin. Au programme, du théâtre, des spectacles de cirque, des arts plastiques, un éco-village et bien sûr de nombreux concerts avec notamment Naaman, Kenny Arcana, Fier Villa, Bafang, Chill Bump et bien d'autres. Rendez-vous dans vos billetteries habituelles, retrouvez toute la programmation du Festival des Arzimutés et les infos pratiques sur francebleu.fr.
Infos, météo, trafic, votre matinale sur France Bleu Cotentin, c'est tout ça. Mais c'est bien plus encore.
Code bon, c'est gagné. Oh,
jeu de la carte bleue, éphéméride, bonne humeur et proximité.
Et ça, je savais que ça vous ferait plaisir.
Et l'actu, tous les quarts d'heure. Alors, vous faites quoi demain? 6h, 9h, France Bleu?
On va commencer avec vous.
On va faire ça, oui.
Ce serait dommage de passer à côté.
Dimanche 17 juin, vivez en famille le sport-spectacle des courses à l'Hippodrome de la Glacerie de 11h30 à 15h30. 8 courses premium avec driver de Vincennes, animation gratuite Hippo Kids pour les enfants, 3 formules de restauration, entrée 4 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Pendant les portes ouvertes, gardez toujours un temps d'avance avec Nissan de Soude.
Vous êtes sélectionné pour participer au grand déstockage de 40 véhicules neufs prêts à partir à des prix exceptionnels.
Portes ouvertes du 15 au 18 juin chez Nissan de Soude, Caen, Cherbourg, Saint-Lô.
Et dans son réseau d'agents à Avranches, Carentan et Granville.
Jusqu'à 10h sur France Bleu Cotentin, les experts avec Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
Oui, c'est le numéro qu'a composé Françoise ce matin. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Bonjour Françoise.
Vous nous appelez de Kerqueville et vous avez une question à propos de votre groseiller.
Oui, c'est ça.
Quelle est votre question exactement, Françoise ?
Ah ben voilà, ça fait, ben c'est la troisième année que mon groseiller se fait manger.
Ah, c'est pas vous visiblement qui mangez les groseilles.
Non, parce que ben là, j'en ai deux, mais voilà, toutes les tiges se font manger. Ouais. Ouais, il reste que la tige. Toutes les feuilles se font manger.
Que faire ?
D'accord. Alors, les feuilles sont mangées, y compris les nervures, ou simplement c'est la partie, le limbe de la feuille ?
Ah ben, il reste la tige et des petits bouts qui dépassent, c'est tout.
D'accord. Donc, vraisemblablement, vous n'avez rien observé à la surface des feuilles ou sous les
non,
feuilles ?
Non, non, mon mari, même là, je vois, il en reste... tout n'est pas mangé, parce qu'il repousse bien chaque année.
D'accord.
Là, il est gros, il fait 50 cm sur... de large sur 62 au moins, et là, il y a la moitié qui sont mangés, les autres, ben non, et puis on voit rien, quoi.
D'accord. Alors, vraisemblablement, il s'agit de petites chenilles qui grignotent les feuilles, qui vous laissent les nervures principales, généralement. Certaines arpenteuses, notamment, ne sont visibles que la nuit. C'est peut-être pour la raison pour laquelle...
Ah, c'est
vous,
pour ça qu'on les voit pas, quoi.
C'est pas, la raison pour laquelle vous ne les voyez pas. Et certaines autres se laissent tomber, avec une soie, se laissent tomber au niveau du sol dès qu'on va y toucher. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle vous ne voyez rien. Donc, là, dans ce cas-là, vous avez la possibilité... Bon, quand l'attaque n'est pas très importante, on supprime les quelques feuilles avec les quelques chenilles quand elles sont visibles, en les écrasant, et puis le problème est terminé. Là, dans le cas où le groseillier n'a plus du tout de feuilles, va falloir essayer d'intervenir quand même de façon un petit peu plus énergique. Donc, vous avez la possibilité soit d'utiliser un insecticide à base de pyrèthre, qui est un insecticide d'origine naturelle, et donc même s'il y avait des fruits, ça ne poserait pas de problème, puisque cette pyrèthre va se trouver dégradé naturellement.
D'accord.
et sans résidus toxiques, ni pour l'environnement, ni pour vous. Vous avez une deuxième possibilité, c'est d'utiliser, alors c'est une bactérie qu'on va utiliser, ça se présente sous forme de poudre, maintenant on trouve ça, c'est un moyen de lutte biologique, ça va agir d'une façon assez simple, c'est-à-dire que à partir du moment où le produit va être déposé sur la feuille, la chenille va consommer la feuille, va ingérer cette bactérie, en fait elle va s'arrêter de s'alimenter, et en l'espace de 48 heures, la chenille va disparaître. Donc ça, c'est un bacillus. Vous trouvez ça maintenant assez facilement en jardinerie et même en grande surface. Hein, ça se présente sous forme de poudre à diluer dans l'eau et à pulvériser. C'est pareil, ça ne présente aucun impact sur l'environnement, ni pour vous, ni pour les autres insectes. Donc c'est très simple d'emploi. Donc là, vous allez avoir avec ces deux alternatives-là, ces deux produits-là, la solution, je pense, assez rapidement. Ce qu'il y a, forcément, j'imagine que les fruits n'ont pas dû se développer étant donné que les bourgeons, tout a été mangé.
Ah ben oui, voilà, j'ai...
Bon. Alors ce qu'il faudra pour l'année prochaine, c'est être vigilante et dès que vous voyez les premières attaques, c'est agir avec ces produits-là dès le départ.
D'accord.
Donc la poudre bacillus et l'autre produit,
l'autre c'est de la pyrèthre. Hein. Ce sont des produits. Il y a quelques années en arrière, on avait du mal à trouver ces produits-là. On avait beaucoup de produits chimiques. Maintenant, comme les produits chimiques vont être arrêtés de commercialisation, eh bien, on trouve toutes ces alternatives et c'est tant mieux.
La pyrèthre et le bacillus. Voilà, Françoise.
Je vous remercie.
Bonne journée.
Enfin, bonne
merci,
journée.
Françoise.
On accueille Paulette. Bonjour, Paulette.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Préteau-Sainte-Suzanne.
Voilà.
Alors, vous avez une question à propos de vos rosiers, vous, Paulette.
Voilà, voilà. Il y a quelques taches qui commencent à venir tout plein. Depuis une journée ou deux, c'est tout. Que puis-je faire ?
D'accord. Alors, des taches marron, vraisemblablement, c'est le début d'une attaque qui s'appelle la maladie des taches noires, parce que ces taches vont virer du marron au noir.
Oui.
Si c'est le début de l'attaque, alors on en parlait tout à l'heure juste en début d'émission, les champignons aiment bien l'humidité, la chaleur, c'est vrai que ça va se développer assez rapidement. Alors certaines variétés de rosiers sont plus sensibles à cette maladie-là, malheureusement. y a quand même plusieurs solutions. Vous avez en tout début d'attaque, quand il n'y a que quelques feuilles qui sont atteintes, c'est de couper ces feuilles et de les détruire, hein, pour essayer de limiter la propagation de cette maladie-là. Ce qui n'empêche éventuellement, c'est d'utiliser un produit à base d'oxyde de cuivre, hein, la bouillie bordelaise. Alors, elle est quelquefois un petit peu décriée, cette bouillie bordelaise. À partir du moment où on reste raisonnable sur son utilisation, ça pose quand même pas trop de soucis. Donc, vous pouvez utiliser cette bouillie bordelaise. Par exemple, une journée comme aujourd'hui, attendez un peu. On annonce un petit peu de pluie, donc attendez demain pour pouvoir traiter.
Très peu de pluie,
vraisemblablement, mais bon, vaut mieux être prudent plutôt que d'utiliser un produit, de le trouver lessivé par la pluie et d'être obligé de recommencer le lendemain. Donc, vous attendez demain pour éventuellement utiliser ce produit, en faisant bien attention de traiter le dessous et le dessus des feuilles. Et logiquement, ça devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Surtout si vous venez de vous en apercevoir, c'est là qu'il faut agir au plus vite. Voilà Paulette.
Bien, mes tomates aussi ont des petits problèmes aussi de taches et ça va plus du tout. Alors j'ai entendu votre conseil.
Alors c'est la même chose. Même cause, même remède.
Voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Bonne journée, Paulette. Merci de nous avoir appelé. Christophe Guérand répond à toutes vos questions à propos du jardin ce matin. 02 33 23 13 23 pour les poser.
Pour poser votre question jardin à Christophe Guérand, appelez France Bleu Cotentin au 02 33 23 13 23.
Jonathan sur France Bleu Cotentin.
Les experts sur France Bleu Cotentin, toutes vos questions jardin à Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
Dominique Durosel, bonjour Dominique.
Bonjour.
Bonjour Dominique.
Alors Dominique, bonjour. Quelle est votre question à Christophe Guérand?
Alors voilà, c'est une question assez particulière. Je pars en Guadeloupe, je déménage, donc je prends un conteneur. J'ai deux très très grosses plantes à emmener. C'est un Cica revoluta et un Strelitzia qui est énorme, mais je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire ou pour endormir les plantes, comme on fait pour les ramener, vous savez, sur Center Park, pour pas qu'elles souffrent, parce qu'elles vont être à peu près 3 semaines dans le noir, dans le conteneur.
Ouh là là, Dominique, là, ça risque de ne pas leur plaire du tout, hein, surtout, surtout si c'est à cette époque-ci, ça va être difficile. De plus, renseignez-vous bien clairement pour le transport de ce type de plante d'un endroit à un autre. C'est pour des raisons sanitaires. Voilà, qu'il faut éviter, parce que quelquefois, en transportant des plantes, on ramène aussi quelquefois des maladies. Et donc, prenez bien soin de vous renseigner de toute façon à ce que ça ne vous pose pas de problème. Mais par contre, et de toute façon, 3 semaines dans le noir, la plante risque d'en souffrir beaucoup. Malgré que, par exemple, le Strelitzia ou le Cica ont beaucoup de réserves au niveau racinaire, et même si les feuilles jaunissent, elles vont repartir, elles risquent bien de repartir par la suite, mais en conteneur, ça veut dire des températures élevées, pas d'eau, c'est quand même assez risqué de les transporter ainsi. Hein. C'est quand même, je pense, vous risquez d'avoir.
Et quand bien même elles pourraient s'acclimater ici, dans le Cotentin?
Alors, les cicas, oui, on arrive dans les endroits les plus protégés, on arrive à les avoir, mais bon, il faut les protéger quand même l'hiver. Le Strelitzia est quand même un petit peu plus fragile dans la région. Non, là malheureusement, Dominique, je suis un petit peu sceptique sur le fait d'arriver à mener à bien ce
projet.
Sur une durée aussi longue, ça risque d'être un petit peu compliqué.
Bon,
voilà Dominique, désolé.
Eh bien, ça répond à ma question.
Bah oui, vous avez une réponse.
oui, pas celle que j'aurais préférée.
Non, parce que alors des plantes, bien sûr, il en voyage, mais souvent c'est par avion qu'elles voyagent.
Hein, oui.
Donc vous m'auriez demandé par avion, je vous aurais dit oui, ça va être tout à fait possible parce que ça va être relativement court. Et oui. Même si c'est en prenant certaines précautions, parce que dans les soutes il fait pas toujours très chaud. Mm-hmm. Mais voilà, ça risque d'être vraiment trop long.
D'accord.
Voilà Dominique.
Eh ben je vous remercie beaucoup. Voilà.
Passez une bonne journée. À bientôt.
À vous aussi. Au revoir.
Gabi, bonjour Gabi.
Oui, bonjour.
Alors,
bonjour
Gabi. Gabi, voilà, vous avez une question à propos d'une rose du désert, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, que j'ai voulu rempoter parce qu'elle prenait de l'ampleur, et depuis que je l'ai rempotée, elle ne pousse plus. J'ai des feuilles vertes qui sortent au bout de quelques temps jaunissent. Voilà. Donc je l'ai rempotée avec le terreau universel. Hein. Juste dans sa terre, mais c'est tout, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle terre? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Pour qu'elle refleurisse. Alors, cette rose du désert, alors, comme je le disais en antenne, sous le nom de rose du désert, on trouve plusieurs plantes différentes. Donc, je pense que ce que vous me parlez, c'est un petit arbuste qui fleurit généralement rose, qui a un tronc assez renflé à la base. Alors, c'est ce qui s'appelle l'adenium. C'est un petit arbuste d'origine tropicale, hein, donc qui est quand même assez difficile à acclimater dans notre région et surtout en appartement. Il a des exigences assez spécifiques. Il a besoin d'une saison sèche pour pouvoir fleurir correctement. Et c'est un petit arbuste qui se plaît un petit peu comme une plante très commune qui s'appelle le clivia. Et c'est une plante qui, lorsqu'elle va être empotée, le clivia, va mettre quelquefois plusieurs années avant de refleurir. Et ben pour l'adenium, c'est un petit peu la même chose. C'est une plante qui demande à être un petit peu à l'étroit au niveau de son pot. C'est comme si elle avait besoin un petit peu de souffrir pour fleurir correctement. Donc, vous l'avez rempotée, vous avez bien fait, parce que elle peut pas vivre éternellement à l'étroit, hein, au détriment de sa santé par la suite. Donc, ce qu'il faut, c'est accepter que pendant la période de rempotage et la période qui va suivre, la plante va se redévelopper, et puis quand elle va retrouver un endroit un petit peu plus confiné au niveau racinaire, eh bien, elle se remettra à fleurir. À ce moment-là, vous pourrez lui donner un petit coup de pouce avec un engrais un petit peu plus riche en phosphore et en potasse, pardon. Et puis, à ce moment-là, elle va refleurir. Pensez bien à lui laisser une période de repos où vous allez arroser un petit peu moins. Et surtout, faites très attention à cette période pendant l'hiver où Les racines ont une faculté de se détruire, enfin de pourrir assez facilement dès qu'il y a un excès d'humidité. Voilà, alors c'est pas un arbuste qui est toujours très facile à cultiver en appartement, hein, mais il faut savoir que ça peut devenir... Alors évidemment, on les voit très souvent, ce sont de tout petits arbustes, mais c'est des choses qu'ils peuvent faire dans leur pays adulte, ils font 3 à 4 mètres de haut. Bon... En appartement, quand ça fait déjà un mètre, c'est déjà beau. Et si vous arrivez à le tenir jusque-là, ce sera vraiment très bien. Mais voilà, faudra un petit peu de patience pour le revoir, refleurir à nouveau.
Oui, parce que ça faisait quand même 3-4 années que je l'ai, puis elle fleurissait tout le temps, régulièrement, puis c'était magnifique. Puis là, d'un seul coup... Alors je me suis dit, est-ce qu'en rempotant, j'ai fait une bêtise, voilà.
Non, c'est pas une bêtise, hein. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une bonne chose pour la plante, d'accord. Mais par contre, en contrepartie, bah, elle va mettre un petit peu de temps avant de se remettre à fleurir.
On va prendre de la patience, voilà.
Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Voilà. Vous savez, le jardinage, c'est une affaire...
De patience.
De patience.
Merci.
Voilà,
merci,
Gabi, passez une bonne journée.
De même, au revoir.
Bon, au revoir. 02 33 23 13 23 pour poser vos questions à Christophe Guérand ce matin.
But did you know of the murder committed? And there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy.
Sur France Bleu Cotentin, à suivre Michel Polnareff. France Bleu.
Mais d'où vient ce nom de famille ?
Tous les week-ends, sur France Bleu Cotentin, retrouvez Annick Perrault, la présidente du Cercle Généalogique de la Manche, pour notre instant Généalogie.
C'est un patronyme rare que l'on trouve surtout en Normandie et tout particulièrement dans la Manche, dans le Coutançais. Le UBI représente la variante régionale.
Pour connaître l'origine de votre nom, rendez-vous le samedi et le dimanche à 10h40 sur France Bleu Cotentin.
France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la fête de la musique sur France 2. Tous à Nice, jeudi 21 juin. Un grand concert France 2 présenté par Garou, accompagné de Laurie Tillman, Place Masséna avec Amir, Boulevard Désert, Calogero, Claudio Capéo, Kenji Girac, Madame Monsieur, Maître Gims, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Slimane, Zazie. La fête de la musique. La fête de la musique. Tous à Nice, en direct sur France 2, jeudi 21 juin à 20h45 et en simultané sur France Bleu et sur francebleu.fr.
Jusqu'à 10h sur France Bleu Cotentin, les experts avec Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
Bonjour Jean.
Bonjour.
Vous nous appelez des pieux Jean et vous avez une question à propos de vos tomates, vos plants de tomates.
Oui, les plants de tomates. Lorsque l'on crée ou qu'on achète un plant de tomate, à la base du pied de tomate, il y a toujours deux petites feuilles allongées de 1 ou 2 cm.
Oui.
Que fait-on de ces feuilles ? Alors, est-ce qu'il faut les supprimer ? Est-ce qu'il faut les enterrer ? Parce que j'ai lu, moi, dans Rustica dit qu'il faut les enterrer. Stéphane Marie n'en parle pas. Moi, je les enlève. Et en fait, je m'aperçois que les premières feuilles, les premières fleurs, ne concrétisent pas de tomates.
Alors, la question est assez vaste, Jean. Alors, pour ce qui est des premières petites feuilles qui correspondent aux deux cotylédons, ce sont pas ce sont pas les deux premières vraies feuilles avec la forme des tomates. Vous pouvez effectivement, il y a deux techniques, hein, soit on n'enterre pas, soit on peut aussi enterrer. Alors, on enlève ces deux petites folioles et on va enterrer la tomate un petit peu plus profond, à condition d'avoir une terre quand même assez légère. Dans une terre un petit peu trop lourde, moi je ne conseille pas de le faire. Une terre trop argileuse, vous avez des risques de compression de la tige et puis éventuellement des risques de pourriture au niveau de la tige. Par contre, si vous avez une terre suffisamment légère, vous pouvez enterrer la base de la tomate à la plantation de façon à multiplier le nombre de racines. La tige va refaire d'autres racines à ce niveau-là. Maintenant, voilà, est-ce qu'on peut le faire ? Moi je dis ça va dépendre des cas.
Il y a une incidence parce que la théorie, c'est on dit toujours il faut pas mouiller une pluie directe sur les feuilles. Mais alors, bon, malgré que cette feuille n'est pas une feuille.
Oui, absolument. Alors ça c'est bon, ça va dépendre aussi des conditions dans lesquelles vous cultivez. Quand c'est en serre, et bien souvent, on en parlait tout à l'heure, bien souvent la culture des tomates n'est possible, enfin n'arrive à terme que sous serre.
Oui, oui.
Du moment que le feuillage arrive à se ressuyer assez rapidement, c'est-à-dire si vous avez une belle journée par la suite, si les feuilles sont un petit peu mouillées et quelquefois elles le sont par la rosée, c'est pas tellement grave. Maintenant, si c'est une journée grise, pluvieuse, il vaut mieux éviter de mouiller le feuillage dans ces conditions-là.
Oui, moi, je parle du cas de ces deux feuilles.
Oui, mais vous savez,
qui ne sont pas des feuilles.
Ces deux petites feuilles, naturellement, elles disparaissent. Hein, donc, au bout d'un certain temps, elles vont disparaître. Et d'ailleurs, généralement, les premières feuilles de tomates, au bout d'un certain temps de culture, ce sont les premières à être malades. Donc, quelquefois,
elles touchent par terre.
Voilà,
elles touchent la terre et elles se contaminent.
Voilà, ce sont elles qui sont plus en contact avec l'humidité. Donc, généralement, on les coupe au fur et à mesure.
Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Jean.
D'accord.
Passez une bonne journée.
Merci de même.
Je vous remercie, Jean.
Au revoir.
Au revoir.
Nous accueillons Hervé de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Bonjour, Hervé.
Bonjour.
Bonjour, Hervé.
Allez-y, posez votre question.
Alors, moi, j'ai planté un abricotier là, au début de saison.
D'accord.
Et le problème, c'est qu'il est bien parti, mais là, les feuilles deviennent rouges et se boursouflent.
D'accord. Mm-hmm. Ouais. Alors, c'est une maladie. Ah, bah, c'est une maladie qui est très commune sur les pêchers, les abricotiers. C'est ce qu'on appelle la cloque. C'est dû à un champignon. Et malheureusement, bah, par cette météo où on a un petit peu d'humidité et puis de la chaleur, eh bien, ce champignon va se développer quelquefois très abondamment sur les feuilles. Alors, dès qu'on voit cette maladie apparaître, il faut essayer de l'éliminer, d'éliminer les feuilles atteintes le plus rapidement possible. Hein, ça commence par un espèce de feutrage blanc, puis vous avez ce développement qui va produire une anarchie au niveau du développement des feuilles. Quand la plante est vraiment trop atteinte, c'est assez difficile de lutter. Ce qu'il faudra faire impérativement, ce sera ramasser les feuilles mortes à l'automne et même au fur et à mesure maintenant si elles tombent, de façon à éliminer les risques de contamination de la plante d'une feuille sur l'autre. Et puis, la méthode de lutte contre ce champignon, ben, ça va toujours être la même, ça va être avec cette fameuse bouillie bordelaise. En fait, le cuivre qu'on va appliquer sur les champignons vont empêcher les spores de ces champignons de se développer. Ça bloque le développement des spores de champignons. Donc ça va être la solution, en pulvérisant bien dessus et dessous, en enlevant les feuilles les plus malades, vous allez y a une autre génération de feuilles qui va revenir, en espérant que généralement, c'est pas mortel hein, pour l'arbre, mais c'est assez pénalisant pour sa pousse, bien évidemment.
C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai enlevé les feuilles sur une branche. Ça m'ennuyait un peu quand même. J'ai fait aussi un espèce de purin d'ortie.
Alors le purin d'ortie va être très bon, hein, va renforcer la plante, mais il a pas réellement directement une action fongicide, si vous voulez. Donc utiliser du cuivre une fois ou deux de façon à limiter le développement de ce champignon. Ce qui n'empêche par la suite d'utiliser des purins d'ortie, de prêle, on parlait de la prêle tout à l'heure, de fougère. Tous ces éléments-là vont renforcer la plante, et quand la plante est plus forte, bien évidemment, elle résiste mieux aux attaques de champignons.
Oui.
Voilà,
j'essaie de faire un fruitier dans mon jardin. Là, j'essaie de mettre plein de variétés de fruits.
Alors, c'est une très bonne idée, hein, Hervé. Mais bon, faut savoir quand même qu'on est dans une région où la culture des arbres à noyaux, alors autant les arbres à pépins, pommiers réussit bien. La poire dans le Nord Cotentin a un petit peu plus de mal. On manque de quelques degrés, alors que dans le sud du département, elle vient mieux réussir. Et puis, alors vous avez aussi les natures de sol, hein, qui sont pas toujours très adaptées. Faut savoir que les pêchers, les abricotiers, etc. Ça provient de régions quand même où on a des terrains extrêmement caillouteux, où on a proche du bassin méditerranéen, donc on n'a pas tout à fait encore le climat du bassin méditerranéen.
Il faut bien choisir ces arbres fruitiers.
Oui, il faut bien les choisir, et surtout, choisissez-les de préférence auprès de producteurs locaux, parce qu'ils les adaptent sur des porte-greffes qui sont adaptés au sol. Voilà. Ça, c'est très important.
Voilà Hervé, passez une bonne journée.
Merci.
À bientôt. Dans quelques instants, Martine va poser une question. On lui conseille de couper la tête des plantes tomates. On va voir ce qu'il faut le faire ou pas. Et puis Jean-Louis, lui, a un saule rince-bouteille et il a des feuilles fanées. Il veut savoir ce qu'il faut faire. Réponse dans quelques instants.
Pour poser votre question jardin à Christophe Guérand, appelez France Bleu Cotentin au 02 33 23 13 23.
Elle fait un an.
La poupée qui fait non, Michel Polnareff.
Les experts sur France Bleu Cotentin, toutes vos questions jardin à Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
Jean-Louis à la haie du Puy. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour.
Bonjour Jean-Louis. Alors Jean-Louis, vous avez un saule rince-bouteille, c'est bien ça?
Exact, j'ai un rince-bouteille, effectivement, qui fleurit péniblement, en fait, et où les fleurs au bout carrément, les feuilles, pardon, les feuilles au bout des fleurs jaunissent, se dessèchent.
D'accord, Jean-Louis, vous me parlez d'un saule rince-bouteille. Vous me parlez de... Alors là, il y a deux choses différentes. Parce que le rince-bouteille, vous me parlez de cet arbuste à feuillage persistant qui fleurit rouge généralement.
Voilà, c'est ça. Oui.
D'accord, donc c'est pas un saule, hein, c'est un calistémon, c'est autre chose. D'accord, j'avais un petit peu de mal à situer un petit peu.
D'accord,
mais ce calistémon, donc il fleurit bien, mais par contre, les feuilles aux extrémités sont noires.
Oui. Il fleurit pas très bien, en fait. Hein. Il fleurit un petit peu, beaucoup moins que ce qu'il a donné auparavant. Et le bout de ses feuilles, en fait, est jaune, carrément mort, pratiquement. Quoi.
D'accord. Ça,
donc,
ça...
alors, ce qu'on a fait au départ, nous, en pensant bien faire, on a taillé donc ses feuilles fanées.
D'accord. Et il a du mal à redémarrer, là.
Et là, il a du mal à redémarrer, oui.
Donc, faut savoir que cet hiver, quand même, malgré que les froids soient pas été très intenses, avec les excès d'humidité, les courants d'air, on a eu de la casse, même sur des végétaux qui n'étaient pas forcément très, très fragiles au froid.
D'accord,
donc,
oui.
Là, vous avez bien fait de rabattre les parties qui étaient abîmées. Ce qu'il y a, par contre, c'est quelquefois assez long à redémarrer. Donc, si ça ne bougeait pas d'ici la fin du mois, début, disons, mi-juillet, là, ça pourrait être un petit peu embêtant. Mais prenez patience, je pense que ça va redémarrer en courant. Il lui faut un peu de temps, il faut surtout de bonnes températures. Et là, vous allez voir, ça va redémarrer en dessous de vos coupes. Et logiquement, ça devrait se refaire assez rapidement quand même.
D'accord, je vais vous faire confiance. Il n'y a pas un engrais quelconque, je peux lui mettre au pied pour le...
Non, s'il est dans de bonnes conditions de bonne terre, il n'y a pas de raison qu'il ne redémarre pas.
C'est une terre argileuse hein, quand même, malgré tout. Hein.
Bon, si vous avez une terre qui est... de qualité moyenne, ça n'empêche d'éventuellement lui remettre du terreau au pied, et puis dès qu'il va redémarrer, un petit coup d'engrais, un petit coup de pouce, ça lui fera pas de mal éventuellement, mais attendez qu'il redémarre.
D'accord.
Voilà Jean-Louis. Je vous remercie. Alors ce n'est pas
merci.
Un saule, c'est un calistémon, c'est ça.
Voilà, tout à fait.
vous le saurez maintenant okay. Jean-Louis.
Je
à bientôt.
Bien.
Merci Jean-Louis.
Au revoir. Martine, bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Bonjour Martine. Vous nous appelez d'Orval, et vous avez une question à propos de vos plants de tomates.
Voilà, donc j'ai vu quelque part, parce que la première année que je fais des tomates, pour l'instant tout va bien, j'ai vu quelque part qu'il fallait couper la tête du plant de tomate. Donc voilà,
Martine,
quand il faut couper quoi.
On n'est plus en 1789, il n'y a pas de raison de raccourcir ainsi vos tomates. Non, vous laisserez vos tomates faire, vous allez les laisser faire 5-6 bouquets, alors c'est suivant la hauteur, c'est sous serre que vous les avez ces tomates?
Non, non.